Députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire celle d'Aix-en-Provence, depuis 2017, Anne-Laurence Petel a présenté en juillet dernier un rapport dans le cadre de la mission d'information relative aux entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire. Elle est aujourd'hui notre invitée et c'est l'occasion de faire le point avec elle sur la situation des entreprises, sur la situation du plan de relance qu'avait lancé le gouvernement face à la crise du Covid.
Politique et Dja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel.
Bonjour Anne-Laurence Petel, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors vous avez été, ce que je disais dans l'introduction, rapporteur avec votre collègue Antoine Savignat de cette mission d'information relative aux entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire, un long titre. Pourquoi cette mission, ce rapport, c'était une demande du gouvernement ou c'est l'Assemblée nationale qui a pris cette décision ?
C'est une initiative parlementaire. C'est donc une mission d'information parlementaire que l'on a fait avec trois commissions exactement. Donc la commission des affaires économiques à laquelle j'appartiens, Antoine Savignat est dans la commission des lois et le président de la mission, Romain Gros, mon collègue Romain Gros, est lui dans la commission des finances. Donc c'est une mission parlementaire à trois commissions. Et il nous est apparu évident pendant la crise que les répercussions économiques qui allaient se produire sur les entreprises et notamment les TPE-PME nous laissaient présager des conséquences importantes sur les défaillances d'entreprises. Et nous souhaitions faire un diagnostic et faire des propositions pour la sortie de crise notamment et anticiper les éventuelles défaillances.
Alors le diagnostic sur la mise en place des dispositifs gouvernementaux pour aider les entreprises est plutôt positif ?
Il est plutôt positif parce que les mesures de soutien et de protection à la fois de l'emploi mais aussi des activités économiques ont été très importantes. Vous savez qu'on a eu un paquet de dispositifs hein, avec le chômage partiel tout d'abord pour les salariés et puis les prêts garantis d'État, le fonds de solidarité, les exonérations ou reports de charges. Donc on a eu là un paquet de protection qui a permis justement qu'il n'y ait pas les défaillances d'entreprise que l'on a habituellement. Habituellement, je pense à 2018-2019, on a à peu près 50 000 défaillances d'entreprise. Et puis, il y a des créations hein, qui viennent contrebalancer ces défaillances. On en a eu beaucoup moins, 40% de moins en 2020.
Que vous expliquez de quelle manière ?
Que l'on explique parce que l'on a justement aidé des entreprises qui, en temps normal, n'auraient pas survécu à leur activité. Donc,
excusez-moi, vous voulez dire qu'elles étaient déjà plus ou moins en difficulté bah, que
vous
cette
avez,
crise
vous avez oui, des entreprises de... voilà, qui, malgré leur activité, pour tout un tas de raisons, eh bien, déposent le bilan à un moment donné parce que leur activité n'est pas viable. Et les mesures de soutien ont aussi permis à ces entreprises de vivre alors que peut-être elles n'auraient pas survécu sans la crise.
Ouais. Alors le diagnostic est plutôt bon. Maintenant, il y a les propositions que vous avez faites dans ce rapport. Quand vous avez écouté tous les chefs d'entreprise, les salariés, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait parfois une mauvaise coordination entre les différents services qui viennent aider les chefs d'entreprise, même en période normale, c'est ça ?
Alors déjà, on a fait plus de 210 auditions, en fait. Et on a auditionné tout l'écosystème du chef d'entreprise en difficulté, c'est-à-dire les organisations professionnelles, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires. On a auditionné des chefs d'entreprise, des juges, des experts comptables, des commissaires aux comptes, les organismes consulaires, des avocats. Énormément d'avocats aussi qui aident les entreprises. Et on s'est très vite rendu compte que face à des difficultés de trésorerie, une grande entreprise n'est pas à moins de difficultés qu'une TPE ou une PME qui est moins bien entourée, qui est moins soutenue en fait, qui ne dispose pas des mêmes armes en fait pour se défendre ou pour anticiper ces difficultés. Donc on s'est aussi beaucoup concentré sur les TPE-PME qui sont les plus fragiles dans la crise. Et on s'est assez vite rendu compte qu'on avait un problème dans le diagnostic ou l'anticipation des difficultés et qu'une très grande partie des problèmes peut se résoudre à la condition d'avoir une bonne visibilité sur, sur les difficultés financières.
Excusez-moi, je vous interromps. Oui. Vous voulez dire que les chefs d'entreprise, peut-être comme ils sont vraiment en train de gérer leur entreprise, ne prévoient pas toujours, n'imaginent pas les difficultés qui s'amoncellent ou qui vont s'amonceler et qu'il faudrait peut-être d'autres instances pour les aider?
Eh bien, les instances, elles existent. C'est-à-dire que l'écosystème existe. L'expert comptable, on l'a remis dans ce rapport au centre de la solution, parce qu'avec un devoir d'information, notamment de l'entrepreneur, parce que c'est vraiment la clé. L'expert comptable, c'est celui qui a accès aux données, qui a accès à la situation financière de l'entreprise et qui peut directement aider. Mais derrière, vous avez tout un tas d'acteurs, notamment les créanciers publics, qui devraient avoir un devoir d'information et ne pas être là uniquement pour recouvrir des créances. Et tous ces gens doivent se parler. Et les informations existent. Le chef d'entreprise, lui, il y a deux choses. D'abord, il a le nez dans ses affaires et il veut absolument s'en sortir tout seul. C'est souvent comme ça aussi. Le chef d'entreprise, c'est aussi un chef de famille. C'est quelqu'un qui pense qu'il peut réussir tout seul. Et face aux difficultés, il a beaucoup de mal à aller demander de l'aide. Il y a aussi une forme de déni. La situation d'échec est très, très mal acceptée par un chef d'entreprise parce qu'elle est quand même mal vu, la situation d'échec. Et c'est ça qu'il faut arriver à résoudre aussi. C'est dans cette anticipation, faire comprendre que tout de suite, quand on a une difficulté, qu'elle est vue par l'expert comptable ou par le créancier public, il faut qu'il y ait une bonne coordination de tout cet écosystème pour repérer le problème, en parler au chef d'entreprise et que le chef d'entreprise lui-même soit très bien accompagné derrière, pris en main pour résoudre au plus tôt les problèmes. Parce qu'on s'aperçoit que plus tôt on va au tribunal de commerce pour des procédures amiables, mieux on s'en sort. Alors qu'en fait, à 90%, 94%, les TPE-PME, quand elles arrivent au tribunal de commerce, c'est pour finir en liquidation. Et ça ne va pas.
Quelle structure allez-vous mettre en place pour favoriser ce dialogue, cette concertation entre toutes les instances?
Alors, il y a beaucoup de choses et il y a des choses qui ont déjà commencé à être mises en place, notamment Bruno Le Maire, en juin 2021, a rassemblé tout cet écosystème à Bercy pour déjà prévoir la sortie de crise, notamment avec des comités départementaux de sortie de crise. Et puis, vous avez les CODEFI qui réunissent notamment tous les créanciers publics.
C'est quoi CODEFI?
Alors, le CODEFI, c'est si vous voulez, une commission qui est chargée d'accompagner, de repérer en fait les entreprises en difficulté, de traiter les dossiers en amont. Et on s'est par exemple rendu compte, autour de la table, vous avez tous les créanciers publics, hein, vous avez la DGFiP, vous avez l'URSSAF, vous avez la Banque de France, etc., que le CODEFI ne rencontrait jamais le chef d'entreprise. Ce qui nous paraît, qu'il juge sur le dossier. Donc pour nous, il est extrêmement important qu'à un moment donné, quand tous ces acteurs se rencontrent, eh bien qu'on identifie quel est celui qui doit appeler le chef d'entreprise, qui doit le recevoir, qui doit lui parler. Parce que dans la difficulté dans une entreprise, l'aspect psychologique et l'aspect humain a énormément d'importance. Il n'y a pas simplement que les chiffres qui ont de l'importance, mais l'aspect humain et psychologique pour arriver à résoudre les difficultés a énormément d'importance. C'est pour ça aussi qu'on a les GPA, par exemple, que sont les groupements préventifs agréés, de prévention agréée, qui existent depuis une loi de 84, ont été très peu mis en place en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et d'ailleurs, ils sont à peine mis en place là par la CPME, mais avec d'autres organismes également. Et pour nous, c'est très important parce que ces groupements préventifs agréés, eh bien, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des avocats, ce sont des administrateurs judiciaires qui bénévolement vont aller au chevet d'entrepreneurs. Et c'est vraiment très bien parce que ce sont aussi des chefs d'entreprise qui vont parler à des chefs d'entreprise et qui vont leur dire, bon ben voilà, où sont tes problèmes? On va regarder ça ensemble. Comment on peut les résoudre? Vers qui il faut aller? Vers qui il faut se tourner? On a notamment dans le rapport, la synthèse du rapport que l'on a fait, montré par un dessin tous les organismes qui gravitent ou les acteurs qui gravitent autour du chef d'entreprise en difficulté, mais que très souvent il a du mal à actionner parce qu'il ne sait pas vers qui aller? Le médiateur des entreprises, le médiateur des banques, l'URSSAF, la DGFiP, les créanciers publics, il a du mal à se tourner vers eux parce que ce sont des créanciers, donc ça fait plutôt peur, alors qu'en fait, ils doivent être aussi là pour aider. L'administration doit être là en accompagnement, en prévention, et pas seulement pour aller recouvrir des créances. Et les groupements préventifs à agréer, moi, j'ai trouvé que c'était, dans certaines régions, des organismes qui fonctionnaient très, très bien et qui, en tout cas, avaient été très efficaces auprès de chefs d'entreprise pour repérer au plus tôt les problèmes et surtout aider le chef d'entreprise à aller trouver la bonne solution.
Alors, on peut dire peut-être que cette crise sanitaire a eu peut-être un côté positif, qui est le fait que les gens ont appris ou vont apprendre, en tout cas, à se mettre autour de la table tous, à s'écouter, à se poser des questions, à participer un peu entre eux et à s'aider, non ?
Alors, plus de solidarité, évidemment, il en faut. C'est une évidence et je pense que la crise nous a aussi montré que la solidarité était une des clés, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs, pour les chefs d'entreprise, comme pour les personnes les plus fragiles. Il faut absolument que la solidarité à tout niveau, on arrive à retrouver un bon niveau de solidarité et à faire prendre conscience aux gens qu'on a besoin de solidarité. Et puis après, si ça peut changer nos méthodes de travail, et c'était aussi tout le but de la mission, c'est de dire à un moment donné, on a fait une réunion d'ailleurs avec les différents services publics en sous-préfecture, avec le sous-préfet, avec le sous-préfet à la relance, avec le président de la mission. Et là, on s'est rendu compte que les mêmes services de l'État, des services de l'État différents, ne s'échangeaient pas des données au motif qu'elles étaient confidentielles. Sauf que tous respectent cette confidentialité et doivent la respecter. Mais il n'y a aucune raison pour qu'entre eux, ils ne se disent pas les choses quand une entreprise ne va pas, parce que c'est pour le bien de l'entreprise. Et donc, si on peut, par le biais de cette mission, à la faveur de la crise, puisqu'il faut toujours tirer quelque chose de bon d'une crise, paraît-il, eh bien, c'est de changer les méthodes et de faire en sorte qu'on ait un peu plus de fluidité, de transversalité, de travail en commun, de prise en compte des réalités de l'autre pour pouvoir avancer et faire les choses, améliorer en fait notre fonctionnement.
Alors ça, c'est le rôle positif d'un député, c'est ça, de mettre sur la table tous les problèmes et éventuellement envisager les solutions. Est-ce que vos préconisations dans ce rapport, le gouvernement peut s'en inspirer ou est-ce que ça n'a pas besoin, il suffit que simplement les divers partenaires se mettent autour d'une table?
Alors, il y a plusieurs choses dans ce rapport. Il y a des mesures qui sont simplement des mesures de bonne pratique. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je me dis que le rôle d'un député n'est pas seulement de légiférer ou de produire une loi ou un changement législatif. Il y a aussi des changements législatifs, il y a des changements fiscaux, il y a des changements réglementaires. Mais je pense que déjà, comme je viens de vous le dire à l'instant, c'est-à-dire que si on change de méthode et si on change les pratiques et qu'on adopte de bonnes pratiques, eh bien, on peut déjà améliorer énormément de choses. Et comme sur les entreprises en difficulté, beaucoup relèvent du diagnostic et de la prévention, et donc de l'observation et du repérage, les bonnes pratiques y sont pour beaucoup.
Alors on va continuer de parler de ce problème, mais juste après une chanson que vous avez choisie.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées.
Politique et Dja, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Emmanuel Michel.
Alors on écoutait Alain Bachung qui chantait Immortel. C'est une chanson que vous avez choisie, Anne-Laurence Petel. Pour quelle raison ?
Parce que j'adore Alain Bachung, parce que je trouve que c'est le meilleur chanteur français. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui, comme chacun sait, est décédé il y a quelques années d'un cancer et qui avait des textes aussi très poétiques, très particuliers. C'est musicalement et au niveau des textes, je trouve que c'est un chanteur exceptionnel.
Alors nous parlions juste avant cette pause musicale de la mission que vous avez menée, des propositions que vous avez faites en faveur des entreprises concernées par la crise. Mais au niveau de la Commission des affaires économiques, vous avez aussi un sujet qui est important, qui est l'agriculture. Alors c'est un sujet auquel vous êtes très sensible, surtout dans notre territoire des Bouches-du-Rhône, où les surfaces agricoles diminuent de plus en plus. Vous avez, en 2018, je crois, produit un rapport sur le foncier agricole, avec un diagnostic, cette diminution des surfaces agricoles. Alors comment on fait, puisque la métropole a mis en place un pacte d'alimentation territoriale, c'est ça ?
Un projet alimentaire territorial.
Voilà. Et comment fait-on quand on voit que les surfaces agricoles diminuent ? Comment fait-on pour nourrir la population, qui est quand même assez nombreuse dans notre département ?
Alors ça, c'est l'enjeu. C'est un enjeu national. L'enjeu national, c'est la souveraineté alimentaire. C'est de faire en sorte que la France puisse demain nourrir tous ses habitants avec de l'agriculture française. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu générationnel, c'est celui de permettre à des jeunes agriculteurs de vivre demain de leur métier, parce que d'ici, allez, peut-être 5 ans, on aura 40% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc, on a besoin de changer cette génération d'agriculteurs. Et ça ne peut pas se faire sans permettre l'accès aux fonciers agricoles. Donc vous l'avez dit, en 2018, j'étais rapporteure d'une mission sur le foncier agricole, sur la protection et le partage des terres agricoles. Et de cette mission, on a fait une proposition de loi qui est portée par le président de la mission, Jean-Bernard Sempastou, mais pour laquelle je suis donc responsable du texte à l'Assemblée nationale. Et très bientôt d'ailleurs, on aura une commission mixte paritaire avec le Sénat, pour finaliser ce texte. Aujourd'hui, cette proposition de loi reprend une très petite partie des propositions, qui sont surtout des propositions qui vont concerner ce qu'on appelle la concentration sociétaire, parce qu'on a deux phénomènes, en fait, qu'il faut arriver à contrer rapidement. C'est un, l'artificialisation des terres, vous l'avez dit, c'est-à-dire l'urbanisation excessive qui va grignoter petit à petit les terres agricoles. Il y a beaucoup de protection pour les espaces naturels et forestiers, très peu pour les terres agricoles. Donc en fait, vous avez par exemple dans le Var, la forêt qui grandit, qui croît,
et plus d'agriculteurs,
l'urbanisation qui croît, et beaucoup moins d'agriculture. Les Bouches-du-Rhône sont le département, je pense, le pire, malheureusement, en termes d'artificialisation des terres et en termes d'urbanisation. Et puis, vous avez de l'autre côté un phénomène qu'on connaît un peu moins dans nos régions parce que les exploitations sont beaucoup plus petites. Mais après, dans des régions où les exploitations sont immenses, c'est la concentration des terres, et c'est le fait qu'une société vienne acheter plusieurs exploitations, n'en achète pas 100%, mais 99 ou 98%, et du coup échappe au contrôle de la SAFER. Parce que la SAFER ne peut contrôler que les mouvements de parts sociales qui sont des achats de 100% des parts sociales. Et à ce moment-là, qui arrive à avoir des exploitations qui font 2000 hectares immenses, avec derrière eh bien pas des agriculteurs, mais des salariés qui sont en fait des salariés agricoles pour une agriculture qui est généralement une agriculture intensive. Donc c'est tout cela qu'on doit changer.
Et ça, comment faites-vous ? Par la loi ?
Par la loi, par la proposition de loi où on va permettre à la SAFER justement de pouvoir contrôler ces mouvements sociétaires.
Actuellement, elle ne peut pas.
Actuellement, ça n'est pas possible. C'est très technique. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer là, mais cette proposition de loi, elle est faite justement pour aller empêcher ces mouvements sociétaires. Alors, on ne pourra pas tous les contrôler, mais on pourra en contrôler la majeure partie. Et puis, de l'autre côté, vous avez bien noté qu'on a voté une loi qui s'appelle Climat et Résilience, dans laquelle on a inscrit très clairement l'objectif de zéro artificialisation nette. Et dans les documents d'urbanisme, que ce soit les SRADET, à l'échelle de la région, les SCOT, à l'échelle notamment ici métropolitaine, ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, eh bien, on doit appliquer ce zéro artificialisation net. Alors, ce n'est pas gagné, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Non, quand on les étudie, voilà. Quand on les voit, les PLU, effectivement, il y a plutôt plus de construction que de...
Voilà, mais aujourd'hui, ça va être une obligation et il va falloir se conformer à cela. Se conformer à cela, ça veut dire aussi, faire en sorte que les centres-villes où on a beaucoup de logements vacants, on puisse loger des personnes dans ces logements vacants, qu'on puisse réhabiliter des logements anciens et qu'on permette que la réhabilitation coûte moins cher que le logement neuf. Ça, ce sont aussi des histoires de fiscalité. Donc, c'est la ministre du Logement qui gère ce genre de
préoccupations. Donc là aussi, il faut tous se mettre autour de la table pour trouver des solutions.
Et là aussi, il y a beaucoup d'enjeux à être très nombreux autour de la table, c'est-à-dire les élus locaux, la ministre du Logement, la ministre de la Cohésion des Territoires... Voilà, et la ministre de l'Environnement.
Alors justement, vous parliez d'élus locaux. Vous êtes également conseillère municipale d'Aix-en-Provence. Vous êtes conseillère métropolitaine. Je n'avais pas dit, mais vous êtes de la majorité présidentielle. Et le président de la République, Emmanuel Macron, est venu deux fois déjà à Marseille ces temps-ci. Il revient en décembre. Il a proposé des aides pour notre métropole et... en demandant à ce que le mode de gouvernance de la métropole évolue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez également écrit à l'ensemble des maires du territoire d'Aix, qui sont fortement opposés à un changement, pour certains.
Alors, tous ne le sont pas,
heureusement. Tous ne le sont pas. Donc, alors, pourquoi ? Cette gouvernance, qu'est-ce qui va se passer ?
Bien, disons que un des grands problèmes de la métropole depuis qu'elle existe et depuis 2015, et ce que lui reprochaient les maires, c'est qu'elle n'avait pas de capacité d'action et donc pas de financement à la hauteur. Il y a un double problème, c'est qu'elle renvoie 60% de son budget aux communes, donc ça c'est quand même un énorme problème.
Et puis elle ne peut pas financer les grands projets.
Donc elle ne peut pas financer ses investissements. Et de l'autre côté, elle a une ville-centre, Marseille, qui est une ville pauvre. Donc le président de la République, en venant résoudre une grande partie, enfin en tout cas une partie, parce que c'est quand même assez massif les problématiques, que ce soit sur le logement ou l'éducation, enfin en tout cas l'immobilier, les écoles à Marseille, mais en venant apporter une manne financière à Marseille pour résoudre ces problèmes à la fois de logement indigne, à la fois d'écoles indignes, c'est-à-dire 174 écoles qui seront réhabilitées, il vient aussi... permettre à la métropole de pouvoir se concentrer et apporter des moyens sur d'autres thématiques stratégiques comme les mobilités. Dans ces propositions du président de la République, il y a aussi une manne financière qu'on a votée la semaine dernière, 1 milliard en tout. Alors il y a une part de subvention de 154 millions de mémoire, mais après le reste en avance remboursable pour les mobilités et pour faire en sorte que dans ce territoire où on est en retard de 30 ans sur les transports en commun, on puisse passer la seconde et enfin faire des transports en commun, tramway, métro, mais aussi bus à haut niveau de service, avec le plan de déplacement urbain qui a été fait par la métropole, hein, qui n'est pas, et ça c'est un jugement personnel, mais extraordinaire parce qu'ils n'utilisent pas le ferroviaire, mais il faudra le faire. C'est pas très innovant ce qui est proposé, mais c'est déjà un premier pas. Et c'est vrai que la métropole, aujourd'hui, pose problème en matière de gouvernance, puisque les conseils de territoire l'empêchent un peu de travailler.
C'est-à-dire comment ça?
C'est-à-dire
qu'ils n'ont pas de, ils ont une entité, enfin ils font ici, ils ont des enveloppes de la métropole.
Disons que en conseil de territoire sont décidées des infrastructures qui devraient être décidées au niveau métropolitain. Et surtout, l'intercommunalité, c'est la métropole. Donc les grands projets structurants doivent se retrouver à la métropole. Il faut faire redescendre les compétences de proximité, les maires le demandaient et ce sera le cas.
La voirie, les cimetières, le...
Ça redescendra aux mairies et l'entre-deux, que sont les conseils de territoire, n'aura plus lieu d'être. Et ce qui était demandé notamment par la mairie d'Aix, c'est-à-dire avoir une personnalité morale, une personnalité juridique avec un budget, eh bien, ça rajouterait des dépenses inutiles et en tout cas le millefeuille administratif serait encore plus important.
Alors une dernière question rapide. La réponse, le problème, c'est qu'on a entendu certains maires dire qu'ils ont besoin de cette manne financière que leur reverse la métropole parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur budget. On sait que la taxe d'habitation, qui était aussi un problème de recettes pour les communes, disparaît. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors, déjà, sur la taxe d'habitation, ils ont été compensés à l'euro près par l'État. Donc aujourd'hui, la taxe d'habitation, elle a été perdue, mais elle est compensée. Ensuite, eh bien, c'est une histoire aussi de priorité. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir si la priorité, c'est les infrastructures de mobilité ou si c'est, par exemple, repeindre la salle des fêtes. Je pense qu'aujourd'hui, vu les embouteillages dans notre
la
métropole
est importante, oui.
Et l'altération du développement économique dû aux embouteillages, je pense qu'il va falloir recentrer la métropole sur des priorités.
Très bien, l'émission est terminée. Merci beaucoup Anne-Laurence Petel et on suivra ce qui va se passer au niveau de la gouvernance de la métropole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. On va dépasser.